Bonjour. Ça fait maintenant quelques années que j'interviewe des entrepreneurs pour faire des portraits que je mets sur mon site internet. Et puis, j'ai décidé d'enregistrer finalement certains de ces échanges parce que je pense que de pouvoir entendre la voix de ceux qui partagent avec moi et qui répondent à mes différentes questions, c'est un grand plus. Et surtout que ma manière de retranscrire, c'est ma manière de retranscrire. Donc d'avoir les deux supports, je pense que ça peut être un bon combo. Donc pour ce premier essai, j'ai demandé à Guy Van den Broek de participer à cette interview enregistrée, ce qu'il a accepté. Donc on l'a fait dans un café, sans préparation. Donc le son n'est pas de très bonne qualité. J'ai essayé de le travailler, mais c'est pas mon truc. Donc, je m'excuse pour la qualité du son. Néanmoins, la qualité du contenu est vraiment super à mon sens. Donc, pour les prochains, je prendrai des environnements moins bruyants. Voilà. Bonne écoute et merci. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle en tout premier, c'est de tes rêves. À quoi tu rêves, Guy?
Waouh! Moi, je rêve à un changement de vie complet. Je pense je trouve la vie d'une richesse énorme et ce qui m'a toujours fasciné, c'est ce que j'ai pas vécu.
Okay.
Et mes rêves, c'est de vivre des choses très très différentes. Je rêverais d'être dans une petite cabane en haut d'une montagne en méditant. Ça m'irait très bien. Ça, c'est un rêve. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Je rêve aussi de faire un tour du monde à la voile. Est-ce que je le ferai encore? Je ne sais pas. Mais ça, je le rêve encore. Mais je ferai des choses comme ça. Mais mes rêves, c'est ça. C'est des ruptures complètes.
Ok. Et puis, est-ce que tu as réalisé certains de tes rêves? Tes rêves d'enfant, de jeunesse?
J'ai envie de dire non. Non, parce que mes rêves d'enfance et de jeunesse n'avaient rien à voir à l'époque avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc, je ne peux pas dire que je les ai réalisés. C'est vrai que pas trop caricatural sur ma trajectoire, mais c'est vrai que j'avais des rêves assez simples quand j'étais jeune. Avoir une vie de qualité, fonder une famille, enfin des choses très classiques, ça très belles, hein, mais très classiques. Aujourd'hui, j'en suis plus là du tout. Enfin, je trouve que ce qui est du domaine de ce que j'appelle humblement la spiritualité, c'est-à-dire l'ouverture à l'univers, me semble beaucoup plus fondamental. Et donc, j'avais pas ces rêves-là à l'époque. Donc, oui, j'en ai réalisé une partie. Mais oui, je les savoure, mais c'est pas un aboutissement du tout. Donc, je les savoure pas au point de considérer que waouh, j'ai réalisé mes rêves. J'en ai vraiment d'autres aujourd'hui. Et je trouve ça important de continuer à avancer.
Et puis, qu'est-ce qui t'anime alors dans ton quotidien?
Alors ça c'est aussi une drôle de question parce que je crois que je suis assez paradoxal. Moi, j'ai un côté. Je suis du mois de septembre. Je suis un vierge. Donc le quotidien me suffit à me motiver. Si j'ai des choses à faire, je les fais bien. Et si c'est dans ma nature, je n'ai pas vraiment de mérite. J'aime bien bien faire les choses. Donc quand je m'engage sur des sujets, je vais les traiter à fond. Mais ce qui me fait vraiment bouger aussi, c'est d'avancer dans la direction que j'ai évoquée. Je pense qu'on a, à un certain âge, en tout cas, certaines choses à lâcher. J'ai toujours trouvé plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Je, sans prétention, j'apprends vite. Mais je désapprends peu. Plus on avance en apprenant sans désapprendre, plus on devient lourd. Et il faut lâcher. Et ce qui est passionnant, c'est de lâcher les choses pour laisser de la place à de l'inconnu. On ne peut pas apprendre l'inconnu, on peut que le vivre. C'est très différent. Donc il faut se mettre dans un état de liberté pour recevoir plutôt que de vouloir chercher un nouveau savoir et de l'acquérir. Ça, c'est une inversion assez profonde. C'est copernicien.
J'entends. Et est-ce qu'il y aurait des exemples de choses que tu as lâchées et qui t'ont fait du bien?
Vivre avec une femme.
Ok.
Oui. C'est pas que ça m'a fait du bien, mais c'était nécessaire. La famille et le couple étaient très très importants pour moi, mais j'ai une capacité à tenter de m'adapter à l'autre qui est énorme. C'est pas du tout une qualité, hein. Ça devient un défaut quand c'est trop fort, parce que c'est un peu envahissant ce monde. Donc je le prends pas comme une qualité, mais c'est ma nature. Donc j'avais pas beaucoup de difficultés à vivre en couple. Mais c'est pas du tout pour redevenir égotiste, mais quelque part, je ne me respectais pas moi-même. Et je pense qu'on a un certain nombre de capacités personnelles et qu'on est là pour les faire grandir. Mais si on se crée une vie où on les oublie, je pense que c'est pas normal. C'est une sorte de gâchis. Je ne suis pas du tout religieux, moi. J'ai un peu de spiritualité, mais je ne suis pas religieux. Mais la parabole des talents m'a toujours beaucoup parlé, elle est magnifique. Le maître donne des talents à ses serviteurs et puis s'en va. Puis quand il revient, il dit, vous avez fait quoi des talents? Il y a ceux qui ont enterré les talents et qui les rendent à égalité, il n'est pas très satisfait. Il y a ceux qui l'ont dépensé, qui l'ont brûlé, qui l'ont bu au café du coin, et il n'est vraiment pas content. Et puis il y a ceux qui en avaient un certain nombre et qui ont doublé le nombre en les faisant fructifier. Et ce qui est très intéressant, c'est ceux qui avaient reçu un talent et qui en rendent deux ont autant de mérite que ceux qui avaient quatre talents et qui en rendent huit. L'important, ce n'est pas le nombre de talents qu'on a, c'est le fait qu'on fait grandir qui on est. C'est un capital qu'on a à la naissance, et je pense qu'il faut le rendre plus grand. Et ça, je trouve ça fondamental.
Et puis, elles sont où tes capacités à toi? Est-ce que tu as réussi à les définir avec le temps, à les identifier?
Je prends rarement le temps de réfléchir comme ça, vraiment en effet miroir. Moi, j'ai une immense curiosité. J'ai un grand respect pour les gens qui captent des choses très larges. C'est une anecdote, mais c'est peut-être un bout de réponse concret, plus concret. Je lis en ce moment à Liu Cixin, qui est donc cet auteur de science-fiction chinois. Mais il a une capacité à bâtir un univers complet, mais en intégrant des choses à la fois réelles, prouvées, mais innovantes, et à les présenter d'une manière totalement décalée. Et je trouve cette capacité à élargir la vision des gens, à la rendre extrêmement inspirante, et surtout à donner du recul par rapport à notre condition très centrée sur nous-mêmes. C'est fou ce qu'on voit le monde centré sur nous-mêmes. J'aime beaucoup cette capacité-là. Et c'est aussi des livres à la Bernard Werber, par exemple, où, en prenant le point de vue des fourmis, on voit l'homme complètement différemment, ce qui force l'homme à se dire, après tout, comment je vois les dieux moi-même, différents, etc. Cette capacité à nous décaler pour élargir notre champ de vision, je trouve ça c'est fondamental. Enfin, c'est le cœur de la vie, je trouve.
C'est beau. Et puis, c'est quoi tes grandes missions ou tes grands combats?
Bien, oui. Toujours sans vouloir revenir à moi, je pense que c'est de prendre soin de mes talents maintenant. C'est maintenant, c'est nouveau. C'est mes filles et mes petits-enfants. Je trouve que je ne me sens pas dans le besoin de leur transmettre des choses pour qu'ils me ressemblent, pas du tout. Mais à l'inverse, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité, mais pas au sens de la perfection, mais juste de montrer un exemple, de cohérence. Je pense qu'on est sensible à la cohérence des gens. Pour les gens qui me touchent, c'est des gens qui ont un certain équilibre, et qui le savent, et qui le vivent, et qui l'offrent aux autres. Et je pense que avec ses proches, avec moi j'ai trois filles et trois petits-enfants, on peut jouer ce rôle d'une sorte d'exemple. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs d'être grand-parent que parent, et on transmet ça assez facilement. Aujourd'hui, j'ai une vie où je suis en équipe, mais pas dans des structures lourdes. J'ai travaillé dans des structures importantes et là, j'appliquais la même chose. Essayer de créer une ambiance de travail collectif très partagée, je trouve ça très important. Je trouve qu'il faut respecter chacun et quand on le respecte, on libère des potentiels énormes. Enfin, je crois que le collectif humain, et c'est comme le cerveau, ça fonctionne à 5% d'efficacité. Il y a un potentiel d'amélioration gigantesque. Et en faisant l'effort simplement de tendre la main, d'accepter les choses comme elles sont, de libérer la créativité, de faire des consensus forts mais respectueux, il y a une énergie énorme qui se dégage. C'est ça qui est une priorité.
Super, merci. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, qu'on a quand même un peu un contexte, sur quelles sont tes activités, peut-être si c'est pas trop indiscret que tu nous partages ton âge?
Non, alors moi, mon âge est 68 ans, c'est dingue, j'en vois toujours 45, mais non, il paraît que c'est 68, c'est ce qui est écrit sur mon passeport, donc ça doit être vrai. Mais humblement, moi j'essaie un peu de restituer, enfin, j'ai eu un métier plutôt en gros de consultant, relativement haut niveau, mais quand même de consultant. J'ai aussi dirigé des petites entreprises que j'ai créées, mais je me sens plus consultant dans l'âme, et j'ai énormément appris, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé dans des tas de secteurs, différents, dans des tas de fonctions. J'ai aussi bien fait de la stratégie et de la projection long terme que du système d'information ras des pâquerettes, avec tout ce qui est entre deux, l'organisation, le fonctionnement, les ressources humaines. Mais ce qui m'a passionné, c'est le changement. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'amener. C'est une capacité à faire des changements collectifs, si possible un peu plus large, un peu plus rapide, et dans la transition durable, parce que je suis extrêmement sensible à ce sujet. Je ne suis pas du tout écologiste, je ne suis pas militant de base, mais je pense que le monde va être surpris de ce qui va se passer, et je pense qu'il faut s'y préparer. Et c'est un paradigme nouveau qui nous arrive. Donc, je n'ai pas du tout la prétention d'aider l'humanité à comprendre qu'il y a un nouveau paradigme. Mais je pense qu'il faut autour de soi, vraiment, autour de ses proches, parler de ça et essayer de s'emmener dans une démarche d'ouverture et de se préparer à être résilient. Je pense qu'il va falloir être très résilient. Le changement de paradigme qui arrive là est très fort et c'est là que j'essaie de travailler sur des choses toutes simples. Hein. Locales, parce que le changement est local, hein, il est autour de nous. Le changement mondial, il échappe à tout le monde, y compris aux grands dirigeants, quoi qu'on en pense. Donc il faut agir dans son environnement proche, c'est ce que j'essaie de faire, en offrant des solutions de changement très pragmatiques qui passent par l'engagement quotidien. Je crois qu'il faut arrêter de transmettre des savoirs, il faut transmettre des expériences aujourd'hui. Il faut permettre aux gens d'expérimenter des choses. Quand les gens expérimentent eux-mêmes, ils ont un goût de fierté, ils le ressentent à l'intérieur. C'est pas au niveau du cerveau, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau du ventre, c'est du ressenti. Et ça fait changer les choses. Donc on essaie de proposer des systèmes de changement très concrets, dans l'engagement d'action.
Et d'après toi, le monde de demain, c'est quoi?
Alors ça, j'ai strictement aucune idée. Mais en toute humilité, je dis même très souvent, c'est une bonne question, parce que j'y pense souvent, que j'aimerais beaucoup être une petite souris pour voir où on en sera dans 10 ans. Je trouve que personne ne peut prédire ça aujourd'hui. C'est très prétentieux d'avoir une idée. Mais je crois qu'on va revenir beaucoup à de la proximité et du local. C'est ce qui va nous sauver. C'est la seule chose. Les structures mondiales sont complètement décalées aujourd'hui. Enfin, elles sont incapables de gérer les problèmes auxquels on fait face. C'est un vrai souci. Sans faire de la politique, il y a beaucoup de raisons, énormément de raisons. La raison qui me semble la plus forte, c'est la notion de pays. Je pense que c'est quoi de nation. C'est quoi qu'on est passé. Ça n'a aucun sens. Faire une guerre au titre d'une nation aujourd'hui, je trouve ça pathétique, alors qu'on sait qu'on va avoir une guerre de l'eau. Enfin, ça me semble beaucoup plus fondamental de savoir que presque 1 milliard de gens n'a pas accès à l'eau potable, plutôt que de vouloir gagner quelques milliers de kilomètres carrés dans le pays d'à côté. Je ne comprends pas qu'on ait encore ces problématiques aujourd'hui qui sont totalement d'un autre âge. Donc, j'ai oublié ta question, je m'en excuse.
C'était un peu qu'est-ce que serait le monde de demain. Mais
je ne sais pas si j'y réponds en partie, mais je crois qu'il faut beaucoup revenir à sa responsabilité sur les gens qui nous entourent. Le monde va se reconstruire par le bas. Le changement de paradigme qu'on vit, c'est ça. Tous les changements de paradigme qu'on a vécu, la vapeur, le pétrole, etc., étaient des paradigmes descendants. Il y avait des innovations fortes qui pouvaient changer notre mode de vie. Aujourd'hui, le changement va devoir se faire en le montant par la base. On ne peut pas attendre de nos dirigeants, on ne peut pas attendre des structures de réguler le monde aujourd'hui. Le changement va trop vite. L'avidité et l'innovation technologique ont un rythme beaucoup trop rapide pour que la réglementation puisse capter tout ça. On n'a pas les processus décisionnels de toute façon au niveau global. Donc le changement ne pourra venir que par la base. Donc c'est un paradigme complètement inversé où chacun va être responsable d'y contribuer. Ça, c'est complètement nouveau. Parce qu'il faut d'abord accepter qu'il faut changer, qu'il faut changer profondément les choses. Il faut le déployer autour de soi et ça va se reconstruire par le bas. Il n'y a que comme ça que ça pourra se faire. C'est une inversion très, très forte. On n'a jamais connu ça, je pense, dans l'humanité. D'abord parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux et surtout parce que le rythme d'innovation n'a jamais été aussi fort et que la capacité à devenir riche, à avoir du pouvoir, est aussi facile. Aux États-Unis, aujourd'hui, un président, ça s'achète. Obama, c'était 400 millions, Biden, c'était 800 millions, et maintenant, ce sera 1,2 milliard. Si on met ça sur la table, on est président des États-Unis. Je simplifie un peu, mais le lien pouvoir-argent est énorme et ne résout aucun problème du monde, aucun. Donc, il va falloir réinventer le monde par la base. Toi et moi, là, tout de suite, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Oui. Ouais.
Et tu as confiance? Tu gardes confiance?
Alors, ça, c'est une question presque vicieuse pour moi, parce que je suis profondément optimiste de nature. Mais j'ai du mal à décrypter le monde comme ça aujourd'hui, sincèrement. Je ne deviens pas pessimiste pour autant, parce que je pense que l'homme a une résilience énorme. Et comme je dis toujours, quand on voit qu'on peut être inuit et avoir 200 noms pour qualifier la neige, ou vivre par moins 30, ou bien être touareg et pouvoir vivre par 50 sur son dromadaire, l'homme peut s'adapter à tellement de choses. Donc oui, on traversera cette crise. Mais il va y en avoir une grosse, je pense, sincèrement, sans être pessimiste. Donc voilà, c'est un petit bout de réponse à ta question.
Et puis pour toi, dans ton parcours de vie, quelles ont été les étapes les plus marquantes ou les plus importantes qui t'ont...
C'est des rencontres.
Ok.
C'est des rencontres. Ça, je remercie énormément. La femme que j'ai épousée, qui m'a donné des enfants, qui nous a donné, c'est pas à moi, bien évidemment. Mes parents aussi. J'ai essayé de travailler et avoir mes parents aussi à un certain âge comme des personnes et plus comme mon père et ma mère. C'est extrêmement enrichissant. et je les ai vus complètement autrement. Et à leur décès, je les ai vus encore autrement. C'est très intéressant de pouvoir faire bouger ça. Mais après, j'ai eu trois rencontres fondamentales. J'ai mon père biologique, j'étais très proche de lui. J'ai eu un père en économie. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait Lucien Pfeffer, qui a inventé, je dirais en gros, la solidarité économique. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui a écrit l'argent contre le capital contre l'argent, qui a écrit des livres très forts et qui avait inventé en France le leasing. Mais le leasing était porté par les entreprises elles-mêmes. Et ça a été récupéré par le système financier du temps de Giscard d'Estaing. Bref, c'est quelqu'un qui m'a appris énormément. C'est quand même quelqu'un qui a terminé sa carrière président d'une grande banque, mais qui était capable dans une convention de gens qui sont dans des systèmes parallèles, qui cherchent Pierre Rabhi, etc., à développer la planète autrement, à avoir une standing ovation en expliquant qu'on devait inverser la place du capital et du travail dans l'actif et le passif. Il avait une capacité à parler de sujets économiques avec son âme et en mobilisant les gens. Donc ça a été mon père en économie, ça. Mmh. Et puis j'ai eu un père en spiritualité aussi, ça c'est plus personnel, mais j'ai rencontré plusieurs personnes, mais dont une absolument exceptionnelle, et c'est des gens qui ouvrent un champ de possibles énormes. Mmh, mmh. C'est ça, mes trois grandes rencontres, oui. Mes trois pères.
Merci. Et puis si on vient un tout petit peu plus en arrière, tu as grandi dans quel contexte familial, toi? Si tu devais un peu le décrire, ça.
Oh, c'est un contexte assez traditionnel de l'époque des Trente Glorieuses, hein. Moi, j'avais... mais j'ai bien aimé ma constellation familiale. Il y avait tous les extrêmes. Du côté de mon père, il y avait 9 enfants. Bon, du côté de ma mère, il y avait 2 filles avec un père exceptionnel. Donc ça donnait des contextes de sensibilité très, très différents. Mon père avait fait un bout d'études, mais n'avait pas... Enfin, n'était pas dans les élites dirigeantes, et l'a jamais été d'ailleurs. Mais il a tracé sa carrière à lui tout seul. Et il a terminé directeur d'entreprise, en étant passé par des phases difficiles. Moi, je suis du Nord, donc c'était la période de toute la restructuration du Nord. La fin du charbon, c'était déjà derrière nous, mais la fin de l'industrie textile, mon père était dans l'industrie textile, donc il a été un moment licencié, à un âge où c'est pas une bonne chose d'être licencié. Il s'est beaucoup battu, il a aussi retrouvé. Ce qui m'a beaucoup interrogé à l'époque, c'est que j'ai observé ma mère qui vivait le licenciement de mon père comme le sien. C'était très intéressant à voir cette proximité qu'ils avaient tous les deux. Ils étaient très exposés à ce problème. C'était très fort. Mais donc ça m'a appris en tout cas la valeur travail, parce que mon père a fait sa carrière vraiment comme ça. Et ma mère m'a beaucoup passionné parce que j'avais une relation très facile avec elle. On était très proches, on discutait énormément, même tout petit. C'était vraiment impressionnant. On a beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs. J'étais au milieu. J'ai eu une relation très particulière. Mais je pense que ma mère était une féministe complètement avant l'âge. Mmh. Et elle était très frustrée de ce qu'elle voyait dans la génération suivante, où les femmes avaient un job, une carrière, des responsabilités, etc. C'est pas tout rose, hein, mais en tout cas beaucoup plus qu'à sa génération à elle. Et elle a vécu ça assez mal, intérieurement. Extérieurement, elle était incroyable. À 60 ans, elle s'est mise à donner des cours d'informatique. Elle n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie. Et elle était dans des domaines un peu de type secrétariat, assistance, etc., mais bureautique. Et elle s'est mise à donner, je me rappelle son premier cours, elle est très proche, elle me dit, mais Guy, elle dit, je ne sais pas comment je vais faire tout à l'heure. Elle me dit, tu m'attends. Bon. Et elle est allée enseigner l'informatique à 60 ans. Enfin, j'ai trouvé ça. Voilà, donc moi, ça m'a appris que tout est possible. Mais après, mes frères et sœurs, on était... assez indépendants, mais ils ont fait des carrières très différentes et c'est très enrichissant. C'est magnifique de voir des personnes proches qui partent somme toute du même substrat, qui prennent leur envol, hein, et puis qui finalement vont dans des directions tellement différentes. J'ai un frère qui était directeur du tunnel sous la Manche côté France. Bon, pour quelqu'un qui travaille dans le BTP, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le BTP que de creuser le tunnel sous la Manche. Hein, et puis de le réussir, puisque le niveau de sécurité en France a été bien, bien plus élevé qu'en Angleterre. Il était très sensible aux accidents du travail. Enfin bref, il a fait une très belle carrière là-dedans. Ma sœur était très enrichissante, parce qu'elle avait des talents de créatrice, mais c'est très difficile de faire sa carrière là-dedans. Et elle s'est retrouvée dans un métier totalement à l'opposé. Ça m'a beaucoup touché. Elle était attachée commerciale dans l'imprimerie. Il n'y a pas pire que de vendre de l'imprimerie. Enfin, il y a une surcapacité en France et mondiale dans les capacités d'imprimerie. Donc il faut se battre avec ses clients. Enfin, bref. Elle m'a beaucoup appris la ténacité. Et mon petit frère avait tous les talents. Il fait de la musique, il est étudiant, il avait créé une association où je le vois encore avoir des grands dirigeants du secteur spatial à côté de lui à une tribune avec des jeunes étudiants pour vanter les mérites de faire carrière dans le spatial et l'aéronautique. Et depuis, il a fait une carrière un peu folle dans ces domaines-là, extraordinaire. Donc oui, c'est une frère et sœur, une fratrie très inspirante.
C'est beau, merci.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, pour terminer cet échange, est-ce que toi, il y a des éléments que tu souhaiterais partager, des éléments que tu penses que si tu avais su ça plus tôt ou qui pourraient être utilisés ou importants pour des personnes qui nous écoutent, soit pour se développer, soit pour construire, soit pour s'apaiser?
Je suis jamais très à l'aise pour donner des conseils à des gens que j'ai pas en face de moi. Je peux essayer d'élaborer quand même, hein, mais moi je crois surtout que chaque chemin est vraiment unique. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir la chance de pouvoir interagir avec une personne qui a envie d'entendre quelque chose, parce qu'il faut qu'il me demande, mais au bon moment. Et il faut le faire avec immensément de respect. Je me suis frotté à des tas de domaines parce que tout m'intéresse, y compris à des thérapeutes, etc. Et j'ai vu des gens qui faisaient un excellent travail, mais d'autres qui étaient extrêmement dangereux parce qu'ils n'avaient pas fait le nettoyage en eux. Ils se permettaient d'aider des gens. Et en fait, quand c'est ça, on projette ses propres projections. Donc quand je donne des conseils, moi, je suis très vigilant. Enfin, j'essaye en tout cas de ne pas trop m'avancer. Mais à l'inverse, dans des situations, si j'avais un conseil relativement général à donner, il faut accepter de lâcher prise sur ce qui ne va pas. C'est fondamental. On ne peut pas changer si on n'accepte pas que la situation est comme elle. Le destin fait qu'on est là, exactement là où on est. Tant qu'on se bat sur les choses du passé, qu'on n'est pas d'accord avec, on brûle une énergie qui, somme toute, ne sert pas à grand-chose. Faire un diagnostic, oui. Mais accepter exactement tout ce qui est là, c'est ça qui nous libère, et c'est ça qui fait que le champ du possible s'élargit énormément. Donc c'est vrai que moi, quand je discute avec beaucoup de gens, parce que j'aime bien aider, c'est dans ma nature, je n'ai pas beaucoup de mérite, et c'est souvent, on revient souvent à ça, de faire ce travail d'acceptation des choses qu'on trouve difficiles et qui nous bloquent, et pour s'ouvrir à un inconnu. Demain est tellement bourré d'inconnus, enfin, il faut le comprendre. Si je suis action-réaction, je vais louper la vie. Ça ne sert à rien de se baser sur le passé trop, enfin, de dire de toute façon je suis comme ça. Moi je rencontre des gens, à chaque fois, trois phrases de suite, ils vont commencer à dire « Ah oui, mais de toute façon moi je suis comme ça ». Sans méchanceté du tout. Par rapport à la question que tu poses, j'ai envie de dire, bah, écoutez, au revoir. Enfin, voilà, par contre, de dire, là, j'hésite, là, je doute, comment on peut faire? Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir aujourd'hui, en acceptant tout ce qui est là. Voilà.
Merci, Guy. Merci beaucoup.